Mon sermon en fait porte sur un seul point, bien qu'il comporte de nombreux sous-points, et il s'adresse aux adultes, aux parents, aux grands-parents et à nous tous. Mais j'espère que nos jeunes, qui sont assez âgés pour comprendre, écouteront également et réfléchiront à ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Je vais vous présenter un point simple, à savoir que nous devons enseigner à nos enfants la crainte de Dieu. Vous devez leur enseigner la crainte de Dieu. Or, le mot « crainte » peut parfois sembler terrible. Nous ne voulons pas que les gens aient peur. J'ai prêché un sermon sur ce sujet il n'y a pas si longtemps, sur la crainte de l'Éternel ou la crainte de Dieu. C'est vraiment étonnant de voir combien de fois cette expression est utilisée dans la Bible, que ce soit la crainte du Seigneur, la crainte de l'Éternel ou simplement la crainte de Dieu dans leur contexte. Je vais donc vous donner quelques conseils pour enseigner aux enfants la crainte de l'Éternel. Le premier point que je soulève est de travailler sur votre mariage. Car si nous voulons que nos enfants aiment Dieu, qu'ils craignent Dieu de la bonne manière, notre exemple est primordial. Et si vous voulez détruire la vie de vos enfants, alors n'apprenez pas à vous entendre. Et cela a un effet terrible sur les jeunes enfants. Surtout quand on dit « la voie de Dieu est la meilleure ». C'est le mode de vie que nous devrions mener, et que les enfants qui ont un sens aiguisé pour l'hypocrisie voient que maman et papa ne vivent pas comme ils le devraient. Vous savez, j'ai réfléchi à cela. J'y ai réfléchi depuis un certain temps. En ce qui concerne les mariages, on pense parfois, eh bien, on a juste besoin de conseils. On doit avoir une session de conseils, et je suis tout à fait favorable à apporter des conseils, mais je me souviens d'un endroit où je servais. Il y avait un couple qui avait été rencontré 23 ou 26 fois, je ne me souviens pas du nombre exact, mais c'était dans la vingtaine. Et j'ai décidé que je ne le ferais pas. Vous savez, si les gens n'arrivent pas à s'en sortir après quelques séances, les sessions de conseils ne vont pas résoudre le problème, car c'est au couple de le résoudre. D'une certaine manière, la réponse est « trouver la solution ». Trouver la solution. Personne ne peut le faire à votre place. Seul vous et votre conjoint pouvez résoudre les problèmes. Et la Bible regorge d'informations sur la manière dont nous devons mener notre vie. Et nous avons des livres comme « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Mais savez-vous que la meilleure orientation à ce sujet vient en réalité de l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit que la façon dont un homme est valorisé, c'est lorsque sa femme le respecte. Et la façon dont une femme est valorisée, c'est lorsqu'elle se sent aimée par son mari. Il dit donc au mari, aimez vos femmes, et dit aux femmes de respecter leur mari. Et nous devons vraiment nous pencher sur cela et y travailler. Car si vous n'y travaillez pas, les chances que vos enfants réussissent, restent avec Dieu, aiment et craignent Dieu, s'en trouvent certainement diminuées. Reportons-nous à Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et nous commencerons au verset 17. Les versets 17 à 19 de Philippiens 3, verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères. » L'apôtre Paul dit, « Écoutez, suivez mon exemple. » Or, pour pouvoir dire cela, il devait évidemment donner le bon exemple. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Pas seulement nous, les apôtres présents, mais aussi les diacres, les anciens, ceux qui dirigent les gens dans la congrégation. Suivez aussi leur exemple, et prenez-en bonne note, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ainsi, quand on examine ces deux versets ensemble, il dit « Suivez-moi et suivez ceux qui donnent le bon exemple, car il y en a beaucoup beaucoup parmi nous qui ne donnent pas le bon exemple. Maintenant, quand je dis parmi nous, je parle de l'Église de Dieu en général. Je ne pointe pas nécessairement du doigt à vous, vous ou quelqu'un d'autre, mais à chacun de voir si le chapeau lui fait. Car dit-il au verset 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Ainsi, si nous ne suivons pas l'exemple donné dans l'exhortation de la Bible, alors nous devenons, sans même nous en rendre compte, des ennemis de Dieu. Nous agissons contre Dieu. Et donc, comme je l'ai dit, efforcez-vous de travailler sur votre mariage pour le bien de vos enfants. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, et nous commencerons au verset 7. Les versets 7 à 9. 2 Thessaloniciens 3, verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. En d'autres termes, l'apôtre dit, « Écoutez, nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous. Nous avons marché comme il convient de marcher, de manière appropriée, sous la conduite et la direction de Jésus-Christ. » Il ne le dit pas en ces termes, mais c'est bien de cela qu'il parle ici. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été jour et nuit à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Il utilise donc son exemple et celui des autres qui voyageaient avec lui, qui travaillaient. Car ce dont il parle ici, ce sont ceux de la congrégation de Thessalonique qui ne travaillaient pas. Et il dit au verset 9, « Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit. Nous aurions pu vous dire de faire ceci ou cela. Nous avions le pouvoir de ne pas avoir à travailler, mais il dit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. » Et il poursuit en disant, verset 10, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Voilà donc le contexte. Mais ce que j'essaie de faire valoir ici, et le principe à retenir, c'est que les apôtres ont donné l'exemple. Pas de manière parfaite, mais dans ce cas particulier, ils ont donné l'exemple. Le bon exemple de travail, pour montrer à ceux qui ne travaillaient pas qu'ils devaient travailler. Dans 1 Timothée 4, au verset 12, il donne ce conseil à ce jeune évangéliste, Timothée. Il dit que personne ne méprise sa jeunesse, il était donc jeune. Il avait peut-être même l'air plus jeune que son âge. Certaines personnes paraissent plus âgées à un certain âge. Je sais que j'avais toujours l'air très jeune quand j'étais jeune, et cela s'avère utile quand on vieillit. Mais quand on est jeune, on veut paraître plus âgé. On veut inspirer davantage de respect. De cette manière, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Or, ce sont là des choses que nous devrions tous cultiver. L'amour, le bon esprit, la foi, la pureté, toutes ces choses que nous devrions cultiver, tous ces traits de caractère. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que nous devons être des exemples pour nos enfants en matière de la crainte de Dieu, d'amour de Dieu, de respect de Dieu, d'obéissance à Dieu. Car l'hypocrisie est votre pire ennemi lorsqu'il s'agit d'éduquer vos enfants. Je suppose qu'on pourrait dire que l'exemple est la plus grande qualité ou la plus merveilleuse des qualités. Mais l'hypocrisie est l'un des moyens les plus rapides de rebuter les enfants. Ils ont une antenne pour ça, même s'ils sont eux-mêmes hypocrites. Désolé les jeunes, mais vous savez que vous vous comportez différemment quand certaines personnes sont là que quand elles ne sont pas là. C'est de l'hypocrisie quand on y pense. Mais vous avez un sens aiguisé à cause de la nature humaine. Nous cherchons parfois des excuses pour ne pas faire certaines choses. Et si nous pouvons voir de l'hypocrisie chez ceux qui sont plus âgés que nous, cela nous donne une excuse pour dire, « Eh bien, je ne crois pas à tout cela. » Les enfants doivent voir en vous que vous-même craignez Dieu, s'ils doivent eux-mêmes craindre Dieu. Maintenant, le point suivant est que nous devons enseigner activement à nos enfants la crainte de l'Éternel. Et voici quelques moyens d'y parvenir. Numéro 1. Apprenez-leur à vous craindre ou à vous respecter. Cela commence dès le plus jeune âge. Je me souviens d'un homme, je crois que c'était dans une sermonette. C'était dans le Michigan, et il avait eu une enfance assez rude, comme la plupart des gens de cette région du Michigan à certains égards. Et il a dit, « Nous n'avons pas été élevés, nous n'avons pas été éduqués, nous avons simplement grandi. » Et vous savez, ce n'est pas ainsi que nous devrions éduquer nos enfants, et vous le savez, et je le sais. Nous ne devrions pas simplement les laisser grandir, pour reprendre sa terminologie. Proverbe 22, verset 6, est l'un des versets les plus connus en matière d'éducation des enfants. Et bien sûr, nous ne nous adressons pas uniquement aux parents ici, car nous tous sommes des adultes. Nous devenons comme des tantes ou des oncles pour certains de nos plus jeunes. Nous devenons leurs grands-parents, ou peut-être le sommes-nous déjà. Mais nous avons tous la possibilité d'exercer une influence sur eux en leur accordant de l'attention, en discutant avec eux ou en leur offrant un petit cadeau ou d'autres petites choses, comme certains d'entre vous le font. Nous devons faire attention à cela. Vous savez, parfois les gens distribuent beaucoup de bonbons et peut-être que papa et maman ne le souhaitent pas. Mais je suppose que d'autres peuvent gâter vos enfants. Les grands-parents le font, alors pourquoi pas les autres? Je ne l'encourage pas, mais je dis simplement que cela arrive. Et nous pouvons montrer aux jeunes que nous les reconnaissons, que nous nous soucions d'eux. Donc, cela s'adresse à nous tous en un sens, mais aussi pour leur apprendre à vous respecter. Dans Proverbe 22, verset 6, il nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Or, j'ai entendu des gens dire que cela signifie en réalité « Instruis un enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il y reviendra. » Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. C'est plutôt « Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Or, dans les Proverbes, il n'y a pas de garantie absolue dans tous les cas que si nous faisons ces choses, car dans ce cas précis, les enfants ont leur propre volonté et ils devront prendre leurs propres décisions, et Dieu leur demandera des comptes pour ce qu'ils font. Mais le fait est que si nous éduquons un enfant dans la voie qu'il doit suivre, il est beaucoup plus susceptible de suivre cette voie même jusqu'à un âge avancé. Or, au verset 15, il est dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. » De nombreux livres ont été publiés au cours du siècle dernier, je suppose, voire avant cela. Mais je dois en parler en termes de siècle, car certains de ces livres remontent aux années 40, 50 et 60, et c'est il y a très longtemps. Je me souviens de certains d'entre eux. Le docteur Spock a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, et il est devenu le gourou de l'éducation des enfants. Du coup, certaines personnes pensent qu'il ne faut jamais donner de fessée à un enfant. Et je n'aime pas particulièrement le mot « verge » ici, car il s'agit en réalité plutôt d'une baguette. Car quand je lisais cela, je me disais « Wow, une verge !» C'est comme quelque chose avec lequel on les frappe, comme un bâton de baseball ou quelque chose du genre, peut-être un manche à balai. Non, ce n'est pas de cela dont il est question. Il s'agit d'une petite baguette qui va le pincer un peu. Il est dit ici que la verge de la correction chassera loin de lui la folie qui est liée à son cœur. Et quand j'y repense, je suis reconnaissant que mes parents, surtout mon père, l'aient fait. Je crois qu'il utilisait sa main, peut-être une petite palette. Ma mère l'a peut-être fait une fois ou deux, mais il s'en servait. Et quand j'y repense, je me rends compte que, ouf, j'ai mérité bien plus que ce que j'ai reçu. Et si jamais j'ai été corrigé injustement, c'était seulement pour compenser les 100 fois où j'aurais dû l'être. Oui, la folie est inhérente au cœur de l'enfant, c'est ce que dit Dieu. Mais les gens ne sont pas toujours d'accord avec Dieu, et nous devons nous demander, sur quoi d'autre ne sommes-nous pas d'accord quand Dieu dit quelque chose? Si nous adoptons cette approche, regardez Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, verset 15. Et là, il est dit, la verge et la correction donnent la sagesse. Donc, si nous voulons que nos enfants aient de la sagesse, ils doivent en venir à nous respecter en tant qu'adultes. Certains enfants n'ont aucun respect pour leurs parents ou les adultes. J'ai vu de petits enfants donner des coups de pied à leur maman ou à leur papa. Et on leur dit de ne pas faire cela, eh bien, c'est un problème. Et les gens disent, eh bien, ils font cela parce qu'on leur donne la fessée. Non, ils font ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'en tirer à bon compte. Et je me souviens, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je rendais visite à une jeune femme, ma femme et moi étions là, et elle a dit, « Je sais que c'est mal, mais je déteste mon fils. » Il avait environ, je ne sais pas trop, 3 ans. Il n'était pas très âgé. Peut-être avait-il 2 ans. Et c'était un petit monstre totalement incontrôlable. Et alors que nous étions assis là, il jouait, et il lui a demandé de faire quelque chose, et il ne l'a pas fait. Et je lui ai dit, « Eh bien, vous savez, le problème est ici. C'est qu'il ne croit pas vraiment que vous soyez sérieuse, et vous devez lui donner une fessée. Et quand vous lui demanderez de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, il doit savoir que quand maman parle, il est censé obéir. Et j'ai dit, agissez tout de suite. » Elle s'est donc approchée et lui a donné une fessée. Il a crié et hurlé et, je ne sais pas, lui a dit des choses qu'il n'aurait pas dû. Et j'ai dit, tu sais, le problème, c'est que tu n'as pas réussi à aller au cœur du problème. Tu dois lui baisser sa couche ou son pantalon et il doit le sentir. Et elle l'a fait. C'était bouleversant. Parfois, les gens écoutent vraiment. Et elle l'a fait. Et il y eut un cri différent. C'était un cri du cœur. Et l'instant d'après, il était dans ses bras, cherchant à se réconcilier, pour ainsi dire. Et vous savez, en l'espace de quelques mois seulement, il est devenu l'un des petits garçons les plus gentils et les plus respectueux qu'on puisse imaginer. Je sais qu'il avait ses moments, et qu'il la mettait à l'épreuve, sans aucun doute, de temps en temps, mais le changement était totalement radical. Et vous savez ce que ma femme et moi avons remarqué au fil des ans? Nous en avons parlé et nous l'avons constaté. Un enfant indiscipliné est un enfant malheureux. Il suffit d'observer parfois. Un enfant indiscipliné est malheureux. Il pleure, il est de mauvaise humeur, il fait toujours certaines choses. Maintenant, comprenez bien que certains ont poussé la discipline physique à l'extrême. Et ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Il existe différentes façons de communiquer avec nos enfants. Parfois c'est « bon, au coin ». Je ne suis pas un fan du temps mort, mais parfois c'est ce qu'il faut. Et il faut certaines choses que nous devons faire, mais nous devons avant tout enseigner à nos enfants à nous respecter, car s'ils ne nous craignent pas, s'ils ne nous respectent pas, pensons-nous vraiment qu'ils vont craindre, respecter et aimer Dieu? J'ose dire qu'ils ne le feront pas. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il est question de discipline et de correction. Et nous connaissons bien cela. Il parle ici des adultes, mais cela ne s'applique-t-il pas également à nos enfants? Il dit au verset 8 d'Hébreux 12, verset 8, « Mais si vous êtes exempt de châtiment ou de correction, auxquels tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères, physiques, nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Ils ont fait de leur mieux. Certains s'en sortent mieux que d'autres, sans doute, pour diverses raisons. Et il dit au verset 10, « Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Verset 11, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Remarquez bien, de douleur. La correction est douloureuse. » Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il y a donc quelque chose de bon qui découle du châtiment, et Dieu nous châtie. Il permet les maladies, il permet les blessures, il permet que toutes sortes de choses nous arrivent pour nous enseigner d'importantes leçons. Vous savez, même à la fin de la vie, et c'est très intéressant, car au Canada, ils ont maintenant quelque chose qui s'appelle l'aide médicale à mourir, l'acronyme MAID. J'aime beaucoup omettre le I, ce qui est encore un peu plus précis, et l'acronyme est MAD, ce qui veut dire fou. Mais je pense que vous avez vu cela dans la vie de certaines personnes. Même lorsqu'elles s'approchent de la fin de leur vie, il y a une réflexion. Une compréhension commence à s'imposer à elles. Un changement positif s'opère. Dieu nous permet parfois de traverser des souffrances parce qu'il y a quelque chose que nous devons apprendre. Nous ne savons pas toujours de quoi il s'agit. Et parfois, ce n'est pas pour notre bien. C'est peut-être pour le bien de quelqu'un d'autre, pour qu'il apprenne la patience, pour qu'il apprenne l'amour. Vous savez, quand on met des enfants au monde, ce n'est pas toujours agréable. Quand ils vomissent, quand ils font toutes sortes de choses et qu'on doit nettoyer derrière eux. Eh bien, qu'en est-il de prendre soin de papa et de maman quand ils ont besoin de nous? Il y a des leçons à en tirer. Mais on en arrive maintenant à un point où, durant ma vie, cette idée ne fait que croître de façon exponentielle. Les gens disent, je n'aime pas ça, je vais simplement en finir. Je vais le dire au médecin, signer quelques papiers et ils m'endormiront. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu sait que la correction et que le simple cours de la vie nous enseigne des leçons très importantes. Et une fois qu'on s'engage dans cette mentalité, cela a commencé par l'avortement, et maintenant, on endort les gens qui souhaitent s'endormir. Il y a une personne que je connais qui est décédée récemment, et si ce n'était pas grâce à des membres de l'Église, ou à un membre détenant une procuration, c'est l'État qui aurait eu la procuration. Et quelle sorte de décision pensez-vous que l'État prendrait concernant cette personne alors qu'elle n'est pas en mesure de prendre la décision elle-même? Nous nous engageons sur une voie, ou plutôt ils s'engagent sur une voie qui consiste littéralement à assassiner les gens. Et cela prend de l'ampleur et cela ne fera que s'amplifier. Alors, enseignez-leur, enseignez à vos enfants à avoir de la crainte et du respect pour vous, afin que lorsqu'ils vous entendent dire quelque chose, ils comprennent qu'ils doivent le faire. Un autre point est le suivant. Enseignez-leur l'existence de Dieu. Dans le psaume 40, nous allons lire le verset 6. Psaume 40, verset 6. Il est dit, « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Or, souvent, lorsque les psaumes parlent des œuvres de Dieu, ils évoquent ce qu'il a fait pour nous, comme ouvrir la mer Rouge. Je dis « nous » pour ces personnes, les Israélites d'autrefois. Mais nous devons certainement considérer toute la création de Dieu. Il y a d'autres psaumes qui parlent de la façon dont il a créé le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, ainsi que les animaux et tout ce genre de choses. Instruisez les enfants sur l'existence de Dieu. Je trouve vraiment merveilleux que Dieu ait permis à l'humanité de voir et de faire aujourd'hui des choses que, pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, les gens ne pouvaient pas faire. Ce n'est que depuis l'apparition du cinéma ou même de la photographie que nous pouvons voir certaines des merveilleuses créatures que Dieu a faites. Nous n'avions aucune idée, le commun des mortels n'en avait aucune idée, du nombre de créatures que Dieu avait créées sur cette terre. Ils n'avaient probablement aucune idée qu'il y avait des kangourous ou divers autres marsupiaux et créatures en Australie, si l'on ne vivait pas en Australie, où la plupart des gens ne sont jamais allés. Et à moins que des gens ne s'y soient rendus et en soient revenus, ce qui n'a vraiment été le cas qu'au cours des derniers siècles, je ne connais pas exactement la période, mais les deux ou trois derniers siècles, ils n'avaient aucune idée de toutes les créatures qui existaient. Pas seulement les animaux auxquels on pense, mais aussi les oiseaux. Les oiseaux en Australie sont différents de ceux d'ici. Je me souviens que lorsque nous y sommes allés pour la première fois, ma femme et moi avons été émerveillés par la beauté des oiseaux et par leur caractère inhabituel. Et nous considérons un merle bleu ou un jet bleu ordinaire comme une sorte de nuisance. Et si vous vivez dans l'ouest du Canada, une pie d'Amérique est juste un oiseau nuisible. Mais ce sont de magnifiques créatures. Et j'imagine qu'une personne venant d'Australie qui n'a jamais vu de pie d'Amérique, ni de merle de la Caroline, ni de cardinal, ni de rouge-gorge ou merle d'Amérique, serait probablement tout aussi émerveillé par eux que nous le sommes par ce qu'ils ont. Mais aujourd'hui, grâce à toutes ces inventions dont nous disposons, non seulement nous avons des photos de tous ces animaux, nous pouvons allumer la télévision ou aller sur Internet et nous pouvons réellement voir des oiseaux et des créatures faire toutes sortes de choses. Il y en a une que ma femme et moi aimons parfois montrer aux gens. Si vous la cherchez, j'ai oublié son nom. Cherchez perroquet qui chante l'opéra. On y voit une femme qui chante un magnifique air d'opéra. Ha 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 ha, vous savez? Et elle en chante un certain passage. Puis la chanteuse d'opéra dit « Et voici un perroquet ». Je crois que c'est un perroquet, je ne le sais pas. C'est l'un de ces oiseaux. Et il fait exactement la même chose. Il la reprend note pour note. Bon, ce n'est pas aussi joli, mais il a les montées et les descentes et tout ça. C'est incroyable ce qu'il peut faire. Et on les appelle des cervelles d'oiseaux ou des individus à cervelle d'oiseaux. Enfin, vous voyez, quand on regarde ces choses-là, Dieu a créé des milliers, des millions de créatures. Les petits insectes, parfois, sont fascinants. Je pense que parfois, les gens sont tellement soudés à leurs ordinateurs, à parler à quelqu'un d'autre ou à faire quelque chose, qu'ils ne voient jamais vraiment le monde qui est là dehors, la création qui est là. Parfois, nous nous essayons, comme je suis sûr que certains d'entre vous le font, sur notre véranda. Nous avons une jolie véranda grillagée pour éloigner les moustiques. Qui ne sont pas si nombreux, mais il y en a quand même, et nous pouvons regarder dehors. Ma femme a installé la mangeoire à colibris là-bas. Nous étions tellement heureux parce qu'un ou deux colibris viennent déjà s'y poser. Et quand on pense à celui que nous avons vu ce matin, même parmi les colibris, il y en a de différentes tailles. Celui-ci est assez petit, et nous nous disions, eh bien, vous savez, c'est probablement une femelle. Mais nous pensons que c'était peut-être un juvénile. Peut-être était-il né en Amérique du Sud, d'où il vient, ou en Amérique centrale. Et il traverse en volant. Certains longent la côte, mais d'autres traversent directement le golfe du Mexique, ou le golfe d'Amérique, peu importe comment on l'appelle aujourd'hui. L'Amérique, le Mexique, ça dépend de là où vous êtes. Mais il traverse ce golfe sur quelques 800 kilomètres. Et quand on regarde ce petit oiseau, comment peut-il contenir autant d'énergie? Et quand on voit toute l'énergie dont ils ont besoin, parce qu'ils boivent tout le temps du sucre pur, pour ainsi dire, de l'eau sucrée. Et là, on n'est pas censé lui donner du miel, parce que ce n'est pas bon pour lui, cela le tuerait, j'imagine. Mais il aime le sucre blanc, donc je suppose que le sucre blanc n'est pas si mauvais que ça. Mais bon, il migre là-bas. Et l'on se disait, eh bien, peut-être qu'ils éclosent là-bas. On sait qu'ils ont des nids ici et qu'ils éclosent. Peut-être qu'ils font, je ne sais pas, celui-ci est petit, mais ils sont tous différents, ils ont tous des personnalités différentes. Tous les animaux ont des personnalités différentes. On n'est tout simplement pas toujours capable de voir tout ce qu'ils font, mais tout le monde est différent. Tout comme nos empreintes digitales sont différentes, nos voix sont toutes différentes, nos expressions faciales aussi. C'est pour ça qu'on peut utiliser la reconnaissance faciale, comme ça s'appelle déjà. Il y a une incroyable diversité parce que Dieu nous a créés ainsi. Et quand Et quand on amène nos enfants dehors et qu'ils voient la création de Dieu, ils sont bien plus enclins à apprécier Dieu. Car quand ils iront à l'école, on leur dira que Dieu ne les a pas créés. C'était tout simplement naturel. Tout a simplement évolué. Et ça semble toujours si logique sur le moment quand on n'y réfléchit pas à fond. Tu sais, ce cheval mourrait de faim. Donc seuls ceux qui pouvaient atteindre un peu plus haut, et vous savez, après des générations, ils se sont transformés en girafes ou quelque chose comme ça. Cela ne marche pas comme cela. Cela ne marche tout simplement pas comme cela. Est-ce que des chevaux, qui sont des animaux un peu plus grands, peuvent atteindre des fruits sur un arbre? Oui. Il y a une certaine micro-évolution qui se produit, mais la macro-évolution, le passage d'une espèce à une autre, cela n'arrive tout simplement pas. Mais ils ont ces histoires juste comme ça. Prenez la brochure de M. Smith intitulée « Évolution ou création, la dimension manquante ». Nous avons cette brochure. Mais il existe aussi de merveilleuses informations qui existent dans le monde extérieur. Ce mouvement de conception intelligente diffuse toutes sortes d'informations qui démontrent l'impossibilité de la macro-évolution. Je crois vous avoir déjà dit que vous avez un, et ce n'est pas pour un enfant de 5 ans, enfin, vous pouvez leur en parler, je ne sais pas s'ils comprendront. Mon oncle George l'aurait peut-être compris parce qu'il était plutôt vif d'esprit à 5 ans. Un peu bête à d'autres égards, parce qu'il était athée. Mais s'il était athée, c'est en partie parce qu'il voyait l'hypocrisie du christianisme. Nous avons en nous une protéine qui permet à nos muscles de s'allonger et de se contracter. L'une des millions de protéines, peut-être, qui composent le corps humain et qui s'appelle la titine. Et elle contient quelque chose comme le chiffre varie, mais c'est une estimation moyenne, entre 28 et disons 35 000 acides aminés, ce qui signifie que si vous preniez 20 lettres et que vous les enchaîniez de manière significative, il vous faudrait en enchaîner environ 35 000 pour former la titine. La probabilité que cela se produise est de 1 suivi de 42 000 zéros. Et chaque fois que l'on ajoute un zéro, on multiplie le chiffre précédent par 10. Et très vite, il devient tout simplement insensé de penser que ces choses pourraient se produire par hasard. Mais un enfant de 5 ans n'a pas besoin de savoir cela. Un enfant de 5 ans a besoin de regarder les animaux et les créatures et tout ce que Dieu a fait, et d'y voir les merveilles et les prodiges, et de regarder un papillon et de voir à quel point il est merveilleusement fait. Et ils sont si délicats. Avez-vous déjà vu un oiseau essayer d'attraper un papillon de nuit ou un papillon? C'est pour cela qu'il virevolte, il sautille un peu. Ce n'est pas une cible facile. S'il volait tranquillement, il serait une proie facile, mais il sautille et se déplace dans tous les sens. Il y a tant de choses que nous pouvons enseigner à nos enfants sur la grandeur de Dieu. Alors enseignez à vos enfants l'existence de Dieu. Montrez-leur qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Créateur. Et nous n'avons pas à nous en excuser. Les preuves sont de notre côté si nous les mettons de l'avant. Vous pouvez lire Romains au premier chapitre, où il parle de ceux qui devraient savoir mieux, mais qui répriment la vérité sur Dieu, sur la divinité. Une autre chose que nous pouvons faire est de leur enseigner avec diligence la loi de Dieu et comment elle a transformé votre vie. Comment elle a transformé votre vie. Avant d'en arriver là, permettez-moi de revenir sur le point précédent, car je voulais souligner ceci. Dans mes notes, j'ai écrit « Mettez en avant les oiseaux et les merveilles de la nature », et j'ai remplacé cela par « les merveilles de Dieu ». Satan est un maître de la tromperie. Et donc, nous parlons de la nature. Nous ne disons pas « Dieu », nous disons « nature ». Je dis « nous », le monde. Or, la nature signifie simplement ce qui est naturel. Ce mot vient de la même racine que naturel, ce qui est naturel. Mais qu'est-ce qui est naturel? Si vous prenez le temps d'y réfléchir, même ce mot est trompeur. Je ne dis pas que vous ne devriez jamais utiliser le mot « nature » ou « naturel », mais nous devons réfléchir à ce que nous disons lorsque nous employons ces termes. Car ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Chaque créature est conçue. Elle n'est pas simplement apparue. Elle n'est pas simplement, je cite, naturelle. C'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Mettez donc en avant les merveilles, non pas de la nature, mais de Dieu. Passons maintenant au point suivant. Enseignez-leur avec diligence les lois de Dieu et comment elle a transformé votre vie. Maintenant, si votre vie n'a pas été transformée, il y a un problème. Mais si vous pouvez regarder et voir comment Dieu a guidé votre vie, vous a béni dans votre vie, et que nous pouvons partager ces choses avec nos enfants, ils sont beaucoup plus susceptibles d'avoir cette crainte, ce respect envers Dieu lui-même. Vous savez, quand Dieu vous bénit, par exemple, dans la dîme, je sais que Dieu m'a certainement béni pour avoir donné la dîme, et je peux citer de nombreux exemples. Et je sais qu'il y en a eu d'autres qui sont bien plus spectaculaires et tout simplement époustouflants, la façon dont il a béni d'autres personnes. Et parfois, nous traversons des épreuves. Tout n'est pas facile pour nous. Ce n'est pas parce que nous payons la dîme que la vie devient soudainement facile. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais quand Dieu vous bénit d'une manière ou d'une autre, partagez cela avec vos enfants. Quand vous connaissez quelqu'un qui a été guéri de manière surnaturelle, je ne veux pas dire simplement qu'il s'est senti mieux, mais qu'il a été guéri de manière surnaturelle. Nous avons de tels exemples. Partagez cela avec vos enfants. Je me souviens d'une dame. Elle est toujours parmi nous. C'est la femme d'un ministre qui tient un journal de tous les miracles qu'elle a vus au fil des ans, au cours des, je ne sais pas, 50 dernières années environ. On ne parle pas simplement de quelque chose où, tu sais, tu tombes malade, tu reçois l'onction, et une semaine plus tard, tu vas mieux. On parle de cas où quelque chose est interrompu absolument. Vous savez, je parle souvent du fait que je crois vraiment que Dieu m'a guéri de la polyarthrite rhumatoïde. Je peux faire des choses aujourd'hui que je ne pouvais pas faire il y a quelques années. Et j'ai été loin, debout dans une salle où les gens pouvaient passer un peu à l'écart dans une petite alcôve. Et Dieu ne m'a pas guéri immédiatement, mais il m'a guéri au fil du temps. Et je pense que lorsque je suis allé chez le médecin et qu'il m'a fait des radiographies, il a dit que c'était incroyable de voir à quel point les lésions étaient minimes, malgré un facteur rhumatoïde aussi élevé. Il a dit quelque chose tout à fait stupéfiant. Il a dit, nous avons deux options. Je peux vous envoyer chez un rhumatologue ou nous pouvons simplement surveiller l'évolution. Et j'ai répondu, nous allons simplement surveiller l'évolution. Je ne voulais pas m'engager sur la voie des stéroïdes et tout ce qui va avec. Je ne dis pas que c'est une erreur de choisir cette voie, car j'étais encore fonctionnel. Mais tout cela s'est déroulé sur une période de 20 ans. J'avais ce problème depuis au moins 10 ans, et cela fait une douzaine d'années, je suppose, depuis. Je me souviens de l'homme que nous avons loin. Il prenait 5 comprimés d'oxycotin. Et M. Goss et moi avons jeûné pour cela. Nous sommes allés le voir, nous l'avons oint, et le lendemain matin, l'un des problèmes qu'il avait, pas tous, mais l'un d'entre eux était définitivement guéri, miraculeusement. Et je n'en ai pas parlé à personne pendant un certain temps parce que je me disais, eh bien, vous savez, c'est peut-être juste psychosomatique ou quelque chose comme ça. Non, c'était bien réel. Maintenant, pourquoi Dieu ne l'a pas guéri des autres problèmes qu'il avait à la suite de cet même incident? Je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse à cette question, mais je sais que Dieu est intervenu à un moment donné, et Dieu intervient selon sa volonté. Parlez donc de la façon dont Dieu a transformé en particulier votre vie, mais aussi celle des autres personnes que vous connaissez. Ce n'est pas une garantie que vos enfants resteront fidèles à la vérité, car beaucoup de gens ont été guéris de manière surnaturelle, et il n'y a aucune autre explication à cela, et pourtant, ils s'éloignent de la vérité. C'est une triste, triste réalité de l'histoire de l'Église. Mais dans le Deutéronome, au chapitre 6, Deutéronome 6 à partir du verset 1. Voici le commandement, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Or, il venait de réitérer les 10 commandements au chapitre 5, et puis au verset 2 du chapitre 6, il est dit, « Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. » L'un des bienfaits dont nous jouissons, c'est que nos jours seront prolongés. Verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Enseigne-leur diligemment donc la loi de Dieu. Et dans ce cas, il leur dit, comme nous le voyons au verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras diligemment à tes enfants. Parle à tes enfants des lois de Dieu, de la manière dont Dieu te les a données, de la façon dont Dieu t'a sauvé et t'a fait traverser la mer Rouge, et de toutes ces choses-là. » Verset 7. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est une exhortation, c'est un commandement de Dieu, selon lequel nous devons parler de ces choses à nos enfants. Et non pas simplement nous attendre à ce qu'ils viennent à l'Église et les assimilent par osmose. Maintenant, si vous êtes un jeune, j'espère que vous écouterez ces choses. Mais les parents ont l'obligation d'enseigner ces choses à leurs enfants. Je ne sais pas combien de personnes j'ai accompagnées au fil des ans en vue du baptême, des jeunes de 18, 20 ans, peu importe leur âge, et quand on leur demande « Peux-tu expliquer un passage difficile comme celui que nous avons entendu dans la sermonnette? » Et on leur donne ce passage difficile. Et bien qu'ils étaient des années dans l'Église, ils n'en ont aucune idée. D'une manière ou d'une autre, il manque quelque chose à leur éducation. Ils devraient être capables d'expliquer Acte 10, ou 1 Timothée 4, ou 2 Timothée 4, je les confonds toujours. Pouvez-vous expliquer cela? Encore une fois, je ne sais pas si l'on peut enseigner cela à un enfant de 5 ans, mais quand ils ont 12 ou 15 ans, c'est tout à fait possible. Ne vous contentez pas de dire « débrouillez-vous », en pensant qu'ils vont tout absorber à l'Église. Je me souviens, j'ai déjà utilisé cet exemple. L'un des premiers, le tout premier article que j'ai écrit pour l'Église était pour le magazine Youth. Et j'avais fait une étude biblique, c'était dans le Michigan il y a de nombreuses années. Il y avait environ 24 ou 25 adolescents. Et après l'étude biblique, nous avons fait un petit jeu de charades bibliques, et l'une des charades concernait la vallée des ossements desséchés. Et il n'y avait aucun jeune qui savait de quoi parlait la vallée des ossements desséchés. Et donc, l'une des filles, alors qu'elle parlait, a été entendue par ses parents, alors qu'elle s'adressa à sa sœur, qui était à l'ambassadeur collège à l'époque. Et cette fille avait probablement 16 ans, à peu près, et elle a dit, « Je sais que la vallée des poupées ne peut pas être dans la Bible. » Au fait, la vallée des poupées était un film. Je devrais mentionner ceci pour vous tous, les jeunes, qui ne le savaient pas. Mais elle ne savait rien d'Ézéchiel 37, de la vallée des ossements desséchés. Comment était-ce possible de ne pas le savoir alors qu'elle allait à la fête des tabernacles chaque année? Et pas seulement elle, mais tous les autres qui étaient là. Et en tant que parents, enseignons-nous à nos enfants. Ils n'apprécient peut-être pas que vous vouliez vous asseoir pour leur parler de certaines choses. Il y a un moment pour le faire et une manière de le faire, et le sabbat est certainement un moment merveilleux. Mais donnez-leur peut-être quelque chose à lire et interrogez-les un peu. Nous devons enseigner avec diligence à nos enfants. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. En d'autres termes, il s'agit d'un enseignement actif. Ils ne peuvent à peine se retourner sans qu'on leur enseigne quelque chose. Maintenant, nous devons faire attention à cela et de la manière dont nous le faisons. Mais nous devons suivre l'exemple de Dieu et ce qu'il nous dit de faire ici. Reportons-nous à Deutéronome 31. Deutéronome 31. Je pense que c'est une manière intéressante d'enseigner. Moïse arrivait à la fin de sa vie. Il savait que les enfants d'Israël s'égareraient à un moment ou à un autre. Ils ne l'ont pas fait pendant toute la durée de la vie de Josué et des anciens qui lui ont survécu. Ils ne sont donc pas tombés immédiatement dans l'apostasie, mais ils l'ont fait finalement. Et au chapitre 31, versets 1 et 2, Moïse écrit « Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. » Ainsi, parce qu'il avait commis une erreur grave, Dieu voulait que tout le monde sache qu'il ne fallait pas faire cela. Parfois, une seule erreur peut coûter très cher. Je suis sûr qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles Dieu n'avait pas l'intention de le faire passer le Jourdain. Mais remarquez le verset 19. Il dit, « Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. » Il leur a donc donné un cantique. Et nous regarderons cela. Passons d'abord en revue verset 22 où il écrit « En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. » Nous apprenons des chants que nous chantons. La musique est un outil puissant, pour le meilleur ou pour le pire. Et je lis en ce moment un livre sur la génération connectée. Et bien souvent, nous, les adultes plus âgés, n'avons aucune idée de ce que nos enfants écoutent. Nous ne savons pas ce que sont ces paroles, probablement parce que notre oui n'est plus ce qu'elle était, et en partie parce que nous ne supportons pas d'écouter ce genre de choses. Mais en même temps, qu'est-ce que nos enfants écoutent? Je ne pense pas qu'ils devraient passer leur temps à chanter des cantiques. Je pense que ce n'est peut-être pas nécessairement ce que nous voulons qu'ils fassent, même si je suppose qu'il n'y aurait rien de mal à cela. Mais je pense que nous devons faire attention à ce qu'ils écoutent. Car ici, il dit, « Je veux qu'ils apprennent ce chant, parce qu'il raconte une histoire. » Vous savez, il y a des chansons qui racontent des histoires. Je pense que nous en connaissons tous quelques-unes. « Cats in the Cradle »,« Le chat dans le berceau », une chanson intéressante qui raconte comment nos enfants ont grandi exactement comme nous. Vous savez, nous sommes trop occupés pour eux, et puis quand nous avons enfin du temps à leur consacrer, eh bien, ce sont eux qui sont trop occupés. Et cela se répète d'une génération à l'autre, et nous n'avons tout simplement pas le temps pour nos enfants, une chanson très, très puissante. Il y en a une autre sur « Je ne me souviens plus du titre ni du nom, mais il parle de son père ». En fait, il y en a plusieurs comme cela. Il y en a une, si vous pouvez l'écouter, où même le chanteur a des larmes aux yeux en parlant de son père. Vous savez, son vieux père. Mais il parle de son père et de tout ce qu'il lui a appris. Il y a des chansons qui nous enseignent des leçons puissantes, et elles ont un impact sur nous. Et de temps en temps, il en sort une, et ce sont des chansons que nous devrions pouvoir promouvoir. C'est donc Moïse qui a donné ce cantique. Vous pouvez le lire au chapitre 32. Je ne m'attarderai pas ici, mais enseigne-leur aussi ce qu'est la crainte du Seigneur. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Dans le psaume 111, verset 10, je vais juste le lire pour gagner du temps. Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ses commandements ont une raison saine. Donc, si nous voulons une bonne compréhension, non seulement de la Bible, mais aussi de la manière de mener notre vie, de la manière de gérer telle ou telle situation, tout commence par la crainte de l'Éternel, par le fait de se tourner vers Dieu. Dieu peut nous donner bien plus que ce que le monde peut nous offrir, de tant de façons différentes. Proverbe 8, verset 13. Je vais simplement citer ici. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est donc la voie qui s'offre à nous, la crainte de Dieu, et nous devons haïr ce qui est mal. Mais nous devons savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas quelque chose que le monde comprend. Il comprend certaines choses, mais pas tout. Et nous lisons dans Proverbe 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Ainsi, lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, nous parlons de faire certaines choses, dont le résultat est de haïr le mal, c'est-à-dire de rechercher la connaissance et la compréhension. Et les proverbes sont très puissants à ce sujet. Lorsque nous les lisons et que nous voyons ce que Dieu dit, et la plupart du temps il est question de la crainte de Dieu, alors vous comprendrez la crainte de Dieu, et vous aurez la sagesse si vous observez les commandements de Dieu. Vous pouvez lire Proverbe 2. Reportons-nous là, car le point suivant et le dernier concerne vraiment Proverbe 2. Où il faut leur enseigner les bienfaits, non seulement pour votre vie, mais aussi pour la leur en général. Enseigne-leur les bienfaits de la crainte de Dieu. Nous ne leur demandons pas de faire quelque chose simplement parce que nous voulons qu'ils le fassent, mais parce que nous voulons qu'ils en tirent profit. Proverbe 2, verset 1, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes mes préceptes. » Maintenant, le verset 2 de Proverbe 2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Jeunes gens, si vous avez 13, 14, 15 ou 16 ans, demandez à Dieu de vous donner de la sagesse. Mais ne vous contentez pas de demander et de partir. Lisez ce qu'il a à vous dire. Les proverbes ont pour but de vous donner de la compréhension, de vous aider à naviguer dans ce monde, de vous donner du discernement dans des situations difficiles, mais demandez-la, criez vers lui pour l'obtenir. Si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, bien sûr, vous aimeriez avoir de l'or, de l'argent, des perles et de tout ce genre de choses, mais voici quelque chose qui a bien plus de valeur et qui est gratuit. C'est gratuit. Verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Si tu fais cela, c'est ainsi que tu comprendras ce que signifie craindre Dieu, et que tu trouveras la connaissance de Dieu. Verset 6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, et il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Des saints, il préserve notre voie. Et encore une fois, un saint ne désigne pas une personne canonisée, il s'agit simplement d'un serviteur de Dieu. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Vous pouvez lire la suite de Proverbe 2. On y trouve des choses très importantes. Reportons-nous à Deutéronome, chapitre 30. Un passage de l'Écriture que nous avons lu de nombreuses fois, et qui en est en quelque sorte un verset à mémoriser pour beaucoup de gens. Deutéronome 30, et je commencerai au verset 15. Deutéronome 30, verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Dieu dit donc qu'il existe une voie qui nous apportera la vie et le bien. Et puis, il y a une autre voie qui mène à la mort et au mal, qui apporte toutes les mauvaises choses que vous ne voulez pas dans la vie. Verset 16. « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Maintenant, il est question des enfants d'Israël entrant en terre promise. Mais je veux que les jeunes réfléchissent à ceci. Vous rendez-vous compte que vous entrerez vous aussi dans la terre promise? Vous traverserez la mer Rouge. Voyez, jusqu'à l'âge d'environ 18 ans, et cela varie selon les personnes, vous êtes sous l'autorité de vos parents. Mais à un moment donné, vous traverserez la mer. Vous êtes désormais livré à vous-même. Je sais bien que traverser la mer Rouge, c'est laisser l'Égypte derrière soi, et vous savez, l'analogie n'est pas parfaite. Mais il y a bien une analogie ici. Quand vous quittez la maison, vous êtes désormais livré à vous-même. Vous devez désormais faire les choses de manière différente. Vous avez laissé derrière vous la sécurité et les soins de papa et de maman qui vous protègent des ennuis. Même si parfois vous vous énervez contre eux parce que vous pensez que vous devriez pouvoir faire quelque chose, mais qu'ils connaissent mieux que vous parce qu'ils ont eu votre âge. Vous n'avez pas la leur, mais ils ont eu votre âge, donc ils comprennent. Mais maintenant, vous partez de votre côté, et cela s'adresse tout particulièrement à vous quand vous y réfléchissez. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, et vous pourriez dire, qu'est-ce que vous voulez dire par adorer d'autres dieux? Eh bien, les dieux de la pornographie, les dieux de toutes sortes de choses qui existent, le mode de vie que le monde nous propose. Toutes ces choses qu'on vous propose à l'école, vos amis là-bas, et même parfois à l'église. Il existe des voies qui ne sont pas celles de Dieu, et ce sont des faux dieux, car vous pensez qu'ils vont vous apporter le bonheur, mais tout ce qu'ils apportent, c'est de la tristesse et du chagrin, pas nécessairement tout de suite, mais plus tard. Le monde dit qu'il n'est pas nécessaire de se marier pour coucher ensemble. C'est ce que le monde enseigne. C'est un faux dieu. C'est une idée qui va apporter toutes sortes de chagrins et de souffrances. Oh, cela peut être amusant pour un certain temps, mais il y a un prix à payer. Et le vrai plaisir, c'est celui qui dure demain et pour toujours, pas seulement dans l'instant présent. Ainsi, il dit au verset 18, « Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. » Ainsi, lorsque vous vous lancez seul, vous risquez de ne pas vivre très longtemps, ou bien votre existence risque d'être très difficile. Beaucoup de gens se lancent seuls et reviennent marqués, abîmés de multiples façons, mentalement, spirituellement, physiquement. Ainsi, au verset 19, ce que nous lisons souvent, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » C'est ce que vos parents veulent pour vous. C'est ce que tous les parents veulent pour vous. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous en tirons des principes. J'ai chez moi un commentaire particulier qui est apprécié par certains. Ce n'est pas un commentaire traditionnel. Il est signé par Dennis Prager. Il s'intitule « The Rational Bible », la Bible rationnelle. Mais c'est un commentaire sur le livre de l'Exode, et je vous en ai déjà cité des extraits. Mais j'aime bien celui-ci, et à la page 32, il dit, « Si vous attendez que Dieu vous contacte avant de mener une vie centrée sur Dieu, vous ne menerez presque certainement jamais une vie où Dieu a sa place. Si vous vous contentez d'attendre que Dieu vienne à vous, vous savez, je comprends que Dieu puisse appeler. Je comprends cela. Mais si vous restez assis à attendre que Dieu vienne à vous selon vos conditions, comme il le dit, vous ne menerez sûrement jamais une vie où Dieu a sa place. Si vous attendez que Dieu vous contacte avant de mener une vie centrée sur Dieu, avant de choisir ce mode de vie, vous ne menerez presque certainement jamais une vie où Dieu a sa place. Et j'adore ce passage à la page 36, où il est dit, on peut être agnostique intellectuellement. Agnostique signifie, en gros, je ne sais tout simplement pas. Et c'est très confortable pour les personnes qui ont parfois grandi dans l'Église. On peut dire, je ne sais tout simplement pas si Dieu existe. Peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas. Ou je ne sais pas si c'est juste. C'est très confortable. C'est très facile de choisir cette voie. Et puis, il dit, On peut faire ça intellectuellement, mais on ne peut pas vivre en tant qu'agnostique. On vit soit en tant que croyant, soit en tant qu'athée. On peut essayer de rester sur la clôture, mais on finira par vivre d'une manière ou d'une autre. Ça ne marchera pas. On ne peut pas simplement se déconnecter et dire, « Eh bien, je ne sais pas. Alors je vais juste... » Non. Quand vous faites cela, vous vivez la vie d'un athée. Vous vivez un mode de vie qui n'est pas celui de Dieu. Et une autre citation de lui. C'est très important pour ceux qui peuvent être en difficulté, qui viennent d'un milieu qui n'était peut-être pas parfait ou qui n'était certainement pas parfait. Il dit, « La biologie n'est pas une fatalité. » On peut être l'enfant d'une personne mauvaise et être une bonne personne. On ne peut donc pas simplement rejeter toute la faute sur papa et maman. Vous avez toujours le choix. C'est ce qu'il dit vraiment là. Et il y a de nombreux avantages. Nous faisons souvent référence au psaume 119, verset 97. Psaume 119, verset 97. C'est l'un des avantages de la crainte de Dieu. Le psaume 119 traite de l'obéissance à la loi de Dieu. Il est entièrement consacré aux lois de Dieu, à ses statuts et à ses jugements. Et nous avons un cantique à ce sujet. Mais le psaume 119, verset 97 dit « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Maintenant, si nous pensons que cela ne s'adresse qu'aux personnes âgées, remarquez le verset 99. « Je suis plus instruit que tous mes maîtres. » Maintenant, votre professeur en sait probablement plus que vous sur la biologie, disons. Mais s'il l'aborde d'un point de vue évolutionniste, il se trompe de fondement. Vous pouvez en savoir plus que vos professeurs. Je m'en souviens car Dieu m'a appelé très jeune, et nous avions le magazine Plain Truth, la pure vérité, et je pouvais lire des articles contre l'évolution. Je pouvais parler à mon professeur de biologie et lui poser des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Il essayait parfois. Il était même rusé et a fait semblant de ne pas savoir à une occasion sur un sujet qu'il connaissait très bien. Verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Encore une fois, il faut relativiser cela. Ceux qui sont plus âgés en savent davantage sur beaucoup de sujets. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, qui sont véritablement le fondement de tout, le fondement de toute la connaissance, nous pouvons en savoir plus que nos professeurs, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Encore une fois, c'est l'une des façons dont nous définissons la crainte de Dieu. Encore une citation de Prager à la page 11. Je l'ai déjà mentionné auparavant à propos des enfants d'Israël au début de l'Exode, ou avant que l'Exode ne commence, et de la façon dont ils devaient jeter leurs enfants dans le fleuve. Ils devaient tuer leurs enfants, et les sages-femmes devaient tuer tous les garçons. Et voici ce que dit Prager à ce sujet. Il dit, « Les gens craignent ceux qui sont plus puissants qu'eux. Par conséquent, la seule façon de ne pas craindre les puissants est de craindre Dieu. » Ainsi, dans le cas rapporté ici, ceux qui craignaient Dieu ont sauvé les bébés hébreux, tandis que ceux qui craignaient le Pharaon ont aidé à noyer les bébés hébreux. Donc, en réalité, cela signifie que l'une des clés du courage est de craindre Dieu. Lorsque nous craignons Dieu, notre crainte des hommes diminue. Ce n'est pas que nous n'ayons plus de crainte, car nous en avons toujours, mais l'amour parfait de Dieu chasse les autres formes de crainte. Dans Matthieu, chapitre 22, un homme s'approcha de Jésus et lui dit, Quel est le plus grand commandement de la loi? Et je vais simplement le lire ici, Matthieu 22, versets 35 à 38. Matthieu 22, 35 à 38. Verset 35, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Je n'irai pas le second pour l'instant, car cela ferait l'objet d'un autre sermon. Mais remarquez qu'il poursuit au verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aujourd'hui, j'ai donc abordé le sujet de la crainte de Dieu, ou de la crainte de l'Éternel. Mais n'est-ce pas simplement une autre façon de dire « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu » Comment séparer ces deux notions? Y a-t-il des différences? Peut-être, mais en réalité, l'une mène à l'autre. La crainte de Dieu mène à l'amour de Dieu. J'espère donc que nous tous, que vous tous, vous enseignerez à vos enfants à aimer Dieu. Et vous, les jeunes, apprenez à aimer Dieu pour votre bien, aujourd'hui et pour demain.